Voici les titres du journal.
Le PLR vaudois a désigné hier soir ses trois candidats pour l'élection au Conseil d'État. Frédéric Borloo accompagnera Isabelle Moret et Christelle Huizier. Retour dans ce journal dans une soirée qualifiée d'historique. La route des Islettes à Massonger est-elle trop dangereuse pour les vélos? C'est en tout cas ce que pensent les habitants du village. Un accident survenu lundi a lancé de la discussion entre Pro Vélo Chablais et la commune. Acheter un billet, un objet déjà utilisé ou un vêtement qui a déjà été porté est désormais à la mode. Et la deuxième édition du Second Hand Day qui se déroule samedi prouve l'intérêt porté par la population pour la seconde main. En football, le FC Lausanne Sport a reçu une correction hier soir. Les Vaudois se sont inclinés 6-1 face aux Young Boys. Et en basket, 5 clubs chablaisiens s'unissent pour promouvoir la sphère orange auprès de la gente féminine.
Et pour la météo, du soleil pour cet après-midi, du soleil également pour demain. La météo complète à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Valérie Blom. Bonjour Valérie.
Pas de soucis, bonjour. La soirée a été qualifiée d'historique hier soir à Tolochenaz dans le canton de Vaud. La direction du PLR cantonal a même parlé d'élection du siècle. Il y avait effectivement un enjeu de taille. Désigner les éventuels successeurs de Pascal Broulis et de Philippe Lebas, véritable dinosaure du gouvernement vaudois. Tout s'est décidé au premier tour, mais dans un mougeoir de poche. 230 voix pour Isabelle Moret, 227 pour Frédéric Borloo, tandis qu'Alexandre Bertourne récolté 225 et le directeur de la station de Villars, Sergei Ashvanden, 138. Retour sur cette élection avec Joël Expi.
En début de soirée, devant la salle debout, la sortante Christelle Huizier a été reconduite par acclamation. À la suite du vote, et après plus d'une heure d'attente pour le dépouillement, ce sont Isabelle Moret et Frédéric Borloo qui passent à la majorité absolue, et ceci dès le premier tour. Mais avec deux voix de plus que le troisième, Alexandre Bertou, le désormais ex-syndic d'Aigle, a eu chaud.
Ah ben oui, bien sûr, mais bon, il y a une compétition et puis après, c'est un peu l'injustice des voix et des résultats, c'est comme ça, mais voilà, je suis dedans. Et puis maintenant, ben, je vais me retrousser les manches, il y a une campagne à faire, elle va être longue, hein. C'est 6 mois, ça ne sera pas facile, on va attendre aussi un petit peu les stratégies des autres, voir comment est-ce qu'on s'organise pour la campagne, quoi. Voilà, il y a un peu de boulot.
Et beaucoup de boulot même, rappelons que le PLR dispose de 3 sièges au gouvernement, la majorité se situe à 4, il a donc été question hier d'envoyer 4 prétendant. Après un long débat, l'Assemblée a décidé à une large majorité de suivre le comité et de n'envoyer que 3 candidats. Une stratégie suivie par les prétendants, dont Frédéric Borloo.
Je pense que la direction du parti a bien pesé le pour et le contre et c'est plus sage de partir à 3. Mais c'est sage et c'est aussi ambitieux de partir à 3. Je crois qu'aujourd'hui, on a 3 places qui sont bien représentées. On va être attaqué, donc il faut aussi qu'on se défende un peu. Et puis ensuite, il faut qu'on essaye de voir dans quelle mesure, entre le premier tour, le deuxième tour et ces prochaines élections, on peut avoir des alliés et puis essayer de reprendre cette majorité.
On ne va pas se le cacher, le ticket du PLR est séduisant, avec des personnalités très connues et dirons-nous, ni trop jeune, ni trop vieille. Défait pour 2 voix, Alexandre Bertou n'a pu que se plier à la décision des délégués.
Non, mais jugé plutôt à 2 suffrages de 2 conseillers nationaux, une ancienne présidente du Conseil national. Moi, je suis très fier de mon résultat. Et Sergueï aussi, il n'a pas démérité. Il était très bon ce soir dans les interventions qu'il a réalisées. Moi, il m'a surpris vraiment. Et puis, ben, il y a encore du travail. Non, je pense qu'on n'était pas. On avait notre place sur ce ticket. Les résultats le démontrent.
Mais rien n'est gagné, dit la direction du parti. Et la fréquentation à la salle de Tolochenaz était à l'image des enjeux. 413 délégués présents, un record et pas assez de chaises pour toutes les personnes massées dans la salle communale, à l'occasion d'un meeting sans masque mais avec passe sanitaire. Sans compter une bonne quinzaine de journalistes présents également. Une soirée comme il y en a peu, Marc-Olivier Buffa.
C'est pas tous les jours qu'on renouvelle 2 conseillers d'État de la valeur et de la qualité que messieurs Broulis et Lebas, d'une part. Je crois que les congressistes étaient conscients de l'enjeu. J'ai parlé tout à l'heure de passage de témoins. On sait à quel point en athlétisme c'est une opération délicate. Il faut soigner le geste, il faudra soigner la finition. J'ai attiré l'attention de mes collègues PLR là-dessus. C'est pas gagné, il faudra aller les chercher, ces 3 sièges. Je pense qu'avec les candidatures qui ont été choisies, nous avons largement de quoi maintenir ces 3 sièges avec je relèverai aussi une très bonne polyvalence des candidats qui ont été choisis dans leur futur ou éventuel département au sein du Conseil d'État.
Le PLR était donc le premier des partis à désigner ses candidats. Situation délicate, car sans alliés du centre droit, la majorité ne sera pas atteignable. Place donc aux autres congrès et aux futures stratégies.
Évidemment, les socialistes ont beaucoup moins de questions à se poser, mais pour autant, maintenant, nous avons 6 mois pour faire cette campagne, 6 mois pour discuter avec nos alliés du centre-droite vaudois, avec l'UDC, les Verts libéraux, et je reste convaincu que si on veut reconquérir une majorité au Conseil d'État, eh bien, ce se fera avec nos alliés, avec une majorité du centre-droite, comme ça s'est fait d'ailleurs à l'échelon municipal et communal ce printemps.
Et ce printemps également, où des majorités de droite ont été renversées, notamment dans des communes de la région. Et comme le dit Marc-Olivier Buffat, l'effet Covid pourra encore créer des surprises d'ici mars 2022.
À noter que les délégués du PLR Vaud ont également rejeté la proposition de limiter les mandats des élus à 15 ans au maximum pour la même fonction. Le Valais rachète le collège de Saint-Maurice. Une nouvelle convention a été signée hier entre l'État et l'abbaye. Sous réserve de l'approbation du Grand Conseil, elle prévoit que le bâtiment principal devienne propriété du canton dès le 1er janvier prochain. Le montant de l'acquisition s'élève à 10 millions de francs. Le canton prévoit de débourser 35 millions dans sa rénovation. Par ailleurs, le produit de la vente sera, quant à lui, investi intégralement par l'abbaye dans la transformation de l'internat en salle de classe, lesquelles seront louées à l'État. À terme, le collège agonois permettra d'accueillir 1250 élèves.
Des rails, un peu de pluie et les cyclistes peuvent gravement chuter.
L'accident est connu pour les deux roues. Un cycliste qui en a fait les frais lundi sur la route des Ilettes à Massonger. Un tronçon sur lequel passent des trains marchandises dangereux, confirme l'association Pro Vélo Chablais via son président Cheryl Cliva.
Les rails sont en cours, donc tout dépend de l'angle par lequel le cycliste franchit ses rails. Maintenant, concernant l'utilisation du trottoir qui peut être donc pris par le cycliste, donc avec le sigle cycle autorisé, ce qui se passe pour ce tronçon de route des Ilettes, c'est que eh bien il y a beaucoup d'intersections par rapport à toutes les entrées pour les industries et les commerces, qui fait que le cycliste eh bien doit être très attentif aux intersections par rapport aux véhicules qui arrivent sur sa droite. Donc il peut être tenté malheureusement de prendre la route qui est directe et puis surtout dans le sens pour la Massonger, la descente.
On le comprend bien, la zone sécurisée n'est pas empruntée par les cyclistes. Du côté de la commune de Massonger, on explique avoir déjà pris des mesures. Le carrefour rail-route est indiqué par des feux. Les rails côté trottoir sont comblés par des caoutchoucs. Massonger peut-elle faire plus en matière de circulation des vélos? La réponse de Sylviane Coco, la présidente de la commune.
On souhaite soutenir la circulation des cycles. On ne peut pas pousser les maisons. Quand il y a peu d'espace, il faut faire avec. Mais c'est vrai que après, tout doit être homologué au niveau du canton. Donc la commune ne peut pas décider seule de ce qu'elle veut faire en politique pour les cyclistes. Alors c'est une volonté dans le cadre de l'agglo de privilégier des voies qui circulent entre les différentes localités et qui n'est pas réservée à uniquement l'utilisation de loisirs, mais également l'utilisation quotidienne de ces voies cyclables.
Un rêve pour Pro Vélo Chablais, des pistes cyclables hors route et qui relieraient les localités entre elles. Un sujet de Joël Espy. Un Valaisan sera à la tête du syndicat des enseignants romands. David Rey a été élu le 4 septembre dernier lors d'une assemblée des délégués pour succéder à Samuel Rohrbach, en poste depuis 2016. Il prendra ses fonctions en septembre 2022.
Les boutiques de seconde main semblent avoir la cote ces derniers temps en Suisse.
Acheter un vêtement qui a déjà été porté ou un objet déjà utilisé, non seulement c'est tendance, mais en plus c'est écolo. Cela limite la consommation excessive et c'est ce que veut prouver 4 entités qui ont créé il y a un an le Second Hand Day. Dont la deuxième édition se déroule ce samedi. Pour relire Aurélia Jacquier, responsable communication chez Ricardo.ch, l'une des entreprises à l'origine du projet, cette journée n'est pas là pour culpabiliser la population, mais plutôt pour la sensibiliser.
On a bien conscience qu'on est dans un monde qui est ainsi fait que c'est difficile de ne pas consommer. En revanche, c'est possible de consommer différemment. Et la seconde main représente une alternative qui est vraiment importante et tout à fait valable pour justement consommer de façon différente. Donc il ne s'agit pas de dire aux gens d'arrêter ou de les culpabiliser. On est tous dans le même monde, on fait tous partie de la même aventure. Et puis on trouve qu'il y a un effort collectif qui est possible autour de la consommation en seconde main et aussi autour de la réparation d'objets, d'ailleurs du recycling et de toutes ces démarches-là qui permettent de prolonger la durée de vie des objets. Aujourd'hui, il y a seulement 2% des biens de consommation qui sont achetés en Suisse chaque année qui proviennent de la seconde main. Ça veut dire que 98% de ce qu'on achète, c'est du neuf. Et de ce neuf, on sait qu'environ la moitié passe à la poubelle dans les 6 mois qui suit l'acquisition. Donc c'est sûr qu'on a tous encore un effort à faire, Mais on est déjà sur la bonne voie. Et puis avec cette journée, on veut mettre en avant le fait que justement, la seconde main, bah, c'est pas forcément comme on croit. C'est une vraie alternative valable.
Durant cette journée, de nombreux magasins et artisans ouvrent leurs portes et font des activités spécifiques. Annick Becerra-Monnier se définit comme une artisane recycleuse. Elle a participé l'an dernier pour la Montézanne. Ce mode de consommation est une évidence. Annick Becerra-Monnier.
C'est mon mode de vie en fait. Mes vêtements, je les achète en magasin de deuxième main. Beaucoup de nos meubles dans l'appartement dans lequel on vit sont également des choses de deuxième main. Et puis qu'on s'est rendu compte que finalement, il y a des choses plus anciennes qui sont de meilleure qualité, qui durent beaucoup plus longtemps et qui correspondent parfaitement à notre façon de vivre.
C'est aussi une façon, en fait, de consommer plus écologique ?
Oui, et puis surtout pour éviter toutes ces montagnes de déchets, je trouve ça tellement incroyable et finalement pratiquement indécent de jeter des choses qui sont parfois en parfait état de marche simplement parce qu'ils ont quelques années ou parce qu'on n'a plus envie ou parce qu'on les a achetées. Ça, c'est aussi quelque chose qui existe quand on les a achetées, que ça correspond pas et on a envie de jeter. Et ça crée non seulement on épuise les ressources de la planète et puis en plus on crée des montagnes de déchets.
À noter encore qu'une carte est disponible sur secondhandday.ch où sont recensées toutes les boutiques qui participent à cet événement. Un sujet signé Léa Journeau. Le musée de l'Élysée dans le canton de Vaud a désormais choisi l'identité photo Élysée. Sans se détourner du passé, son objectif est de s'orienter résolument vers les enjeux d'une institution du futur. Avec cette modification, il affirme un ADN graphique ainsi que sa position dans le contexte culturel vaudois, suisse mais aussi international. Par ailleurs, cette nouvelle signature est intrinsèquement liée à son déménagement à plateforme 10 avec une réouverture prévue en juin 2022. Centre de consultation, camions de vaccination et campagne d'information pour la population issue de la migration. Les cantons se démènent pour faire grimper leur taux de vaccination. Mais si les chiffres montent, ils restent 2 à 3 fois plus bas que ceux de mai et juin. Les cantons essayent pourtant de trouver des astuces pour faire monter leur taux de vaccination. De nombreuses équipes mobiles se déplacent ainsi dans les centres commerciaux, les écoles, les universités, les salles communales, les centres culturels ou les entreprises. La tâche principale consiste maintenant à persuader la partie non vaccinée de la population à faire le pas et les derniers mètres sont souvent les plus difficiles. Enfin, pour la saison de ski, le Valais souhaite que les restrictions soient le moins nombreuses possible, indique le service de santé publique. Mais si la Confédération traite les remontées mécaniques de manière différente au transport public, le canton demande la mise en œuvre pragmatique et simple de l'obligation de présenter un certificat Covid. Celle-ci devra en outre entraîner la levée de l'obligation du port du masque et de la limitation de capacité des installations.
Une nette majorité du Conseil national a prolongé de 4 ans le moratoire sur l'utilisation d'OGM dans l'agriculture.
Le peuple avait accepté une initiative en ce sens en 2005. Pourtant, en 15 ans, de nouvelles technologies ont été développées. Le moratoire ne s'applique d'ailleurs pas à la recherche. Prolonger le moratoire est une solution de facilité. La conseillère nationale verte Valentine Piton.
Les raisons de cette prolongation ne sont pas exactement les mêmes que les précédentes. Ici, il s'agit de prolonger surtout pour apporter des réponses aux nombreuses interrogations que suscitent les nouvelles techniques de modification de l'ADN. Et cette vraiment profusion de nouvelles techniques pose de nouvelles interrogations. A priori, des risques comparables par rapport aux OGM classiques. Et puis, on a vraiment besoin maintenant d'évaluer de façon consciente sans se précipiter ces risques ainsi que des possibilités d'opportunités mais qu'il ne faudrait non plus pas justement surestimer.
Le PLR et les Verts libéraux souhaitent qu'on taille une brèche dans le moratoire en faveur des nouvelles techniques de modification génétique des plantes sans succès. La conseillère nationale libérale radicale genevoise Simone de Montmolin.
Je crois qu'il faut ici donner un signal que les choses évoluent, la science évolue et que nous ne pouvons pas rester sur les bases de décisions qui étaient celles que nous avions prises il y a 15 ans. Aujourd'hui, il y a non seulement des évolutions scientifiques, techniques qui apportent des réponses beaucoup plus fines, beaucoup plus précises. Et puis d'autre part, nous avons des enjeux environnementaux, nous avons des enjeux climatiques que nous devons relever pour lesquels ces nouvelles approches peuvent apporter des solutions reconnues est déjà utilisé d'ailleurs ailleurs.
Des propos recueillis par notre correspondant au parler fédéral Serge Jubin. Si la majorité du PLR s'est opposée à la reconduction du moratoire, Simone de Montmolin s'est-elle abstenue ? La prolongation de 4 ans du moratoire sur les OGM dans l'agriculture doit encore être validée par le Conseil des États. La limite d'âge pour le certificat Covid devrait être relevée à 25 ans, estime l'association fêtière suisse pour l'animation socioculturelle enfance et jeunesse. Selon elle, les jeunes et les enfants souffrent déjà assez de la pandémie et des restrictions actuelles. Pour la fêtière, les tests pour un certificat Covid doivent rester gratuits pour les jeunes de 16 à 25 ans au-delà du 1er octobre. L'association critique les déclarations contradictoires des autorités qui ont été faites dans un laps de temps très court. Lorsque la recherche n'est pas en mesure d'apporter des réponses, cela doit être communiqué de manière transparente, exige l'association. Les informations devraient être mises à disposition d'une manière compréhensible aux enfants et aux jeunes. Pas moins de 2,3 milliards de francs seront investis cette année dans l'armée. Suivant le national, le Conseil des États a approuvé à l'unanimité les crédits proposés par le Conseil fédéral. Cette somme est en baisse par rapport à 2020. Le Conseil fédéral avait alors demandé 2,7 milliards. Il prévoit cette année des crédits d'engagement à hauteur de 2,3 milliards de francs destinés au programme d'armement, à l'acquisition du matériel de l'armée et au programme immobilier du département de la Défense. Les investissements prévus doivent permettre d'améliorer la sécurité de la Suisse et dans le même temps réduire l'impact de l'armée sur l'environnement. L'armée s'est fixé une baisse de 40% de ses émissions de CO2 d'ici à 2030 par rapport à 2001, a indiqué la ministre de la Défense Viola Amert. Les 16 plus importantes sociétés familiales domiciliées en Suisse génèrent un chiffre d'affaires cumulé d'environ 245 milliards de francs. Ce montant classe la Confédération à la 6e place au niveau mondial, indique aujourd'hui le cabinet d'audit EY. Aucune des entreprises familiales helvétiques recensées n'est dirigée par une femme.
À l'étranger, le Premier ministre australien a reconnu que le président français lui menait la vie dure.
Ceci après la rupture d'un contrat de sous-marin. Mais Scott Morrison, le Premier ministre, promet d'être patient pour restaurer les relations avec la France. Nous comprenons leur déception, assure-t-il une semaine après que l'Australie a rompu sans avertissement le contrat portant sur l'achat de 12 sous-marins français à propulsion conventionnelle pour une valeur de 90 milliards de dollars australiens, soit 55 milliards d'euros. La coulée de lave du volcan Cumbre Vieja a entré en éruption dimanche sur l'île de La Palma, dans l'archipel espagnol des Canaries, continuèrent d'avancer vers l'océan Atlantique. Les dégâts sont importants. Selon un dernier bilan fourni par le système européen de mesure géospatiale Copernicus, 154 hectares de terrain et 320 bâtiments ont été détruits par la lave, dont de nombreuses habitations abandonnées à la hâte par les habitants. Au total, 6100 personnes ont été évacuées depuis le début de l'éruption, qui n'a à ce stade pas fait de victimes. Parmi eux figurent 400 touristes qui ont été éloignés des zones de risque et installés à Tenerife, sur une autre île de l'archipel, ont précisé les autorités.
La pandémie de Covid-19 sera terminée dans un an.
C'est le directeur de la société biotechnologique Moderna qui l'estime. Selon lui, les personnes âgées et à risque ayant été vaccinées contre le coronavirus au début de la crise doivent recevoir un rappel. À la mi-2022, il y aura suffisamment de doses pour vacciner tous les habitants de la planète, a-t-il déclaré dans un entretien diffusé hier par la Neue Zürcher Zeitung. Les États-Unis vont doubler leur don de vaccins contre le Covid-19, portant le total de doses promises à des pays pauvres à plus de 1,1 milliard. Cette annonce du président américain Joe Biden affiche son intention de mener la riposte mondiale contre la pandémie. Pour chaque dose administrée aux États-Unis, Washington en donne 3 à d'autres pays, a précisé le président. L'Union européenne, avec laquelle les États-Unis entendent coopérer étroitement, va, elle, distribuer plus de 500 millions de doses. En football, déroute totale pour le FC Lausanne Sport. Les Vaudois se sont sèchement inclinés à domicile hier soir contre le quadruple champion en titre Young Boys. Une claque 6-1 qui a montré toutes les carences défensives d'une équipe en manque de confiance. À l'heure de l'interview, difficile de trouver des explications pour Cameron Puertas, milieu de terrain lausannois.
Un gros score, ça peut tous nous réveiller. J'espère que ce sera le cas et que ça va nous montrer que la Super League, c'est pas un championnat où on peut rigoler. Il faut être à 100% tous les matchs pour gagner. On n'était pas dans un bon jour, et bien c'était un grand jour. Et on sait qu'entre une équipe comme ça, si on n'est pas à 100%, c'est une équipe fort offensivement. Et si on n'est pas fort 100%, bah, ça va vite devant. Il faut commencer à gentiment aller chercher les 3 points. Et je pense que samedi, c'est le meilleur match pour aller chercher les 3 points dans un derby, surtout à l'extérieur. Ça va être un match pareil, je pense. Avec l'intensité, ils vont venir nous chercher haut, surtout chez eux. Mais il faudra montrer de la personnalité pour gagner ce match.
Des propos recueillis par nos confrères de LFM. Le Lausanne Sport reste donc sevré de victoires après 7 journées dans ce championnat de Super League. Les Vaudois devront donc impérativement faire des points samedi à Genève pour le premier derby lémanique de la saison. Football toujours, le prochain Euro féminin offrira des dotations supérieures à la précédente édition du tournoi. Le comité exécutif de l'UEFA a pris cette décision aujourd'hui. Les 16 équipes réunies en Angleterre pour la phase finale se partageront 16 millions d'euros contre 8 lors du dernier rendez-vous en 2017 aux Pays-Bas. À titre de comparaison, les 24 participants du dernier Euro masculin reporté par l'Italie s'étaient répartis 331 millions d'euros, un montant abaissé par l'UEFA début mai dernier en raison des recettes de billetterie limitées par la pandémie.
En basket, 5 clubs chablaisiens ont officialisé un nouveau partenariat.
Le but de cette collaboration entre Trois Torrents, Colombey, Baie, Aigle et le Chablais Club Basket, promouvoir la sphère orange auprès des jeunes joueuses. Depuis plusieurs saisons, le nombre de licenciés dans les équipes féminines est en diminution. Une réalité qui fait réagir les principales écuries chablaisiennes au point de rallier leurs forces. Première naissance de cette alliance, un tournoi amical qui se tiendra ce week-end. Il mettra aux prises Trois Torrents, Genève et Helios, trois formations qui évoluent dans l'élite suisse. L'occasion d'officialiser cette nouvelle collaboration, mais aussi d'aller à la rencontre du public, comme l'explique Fabrice Miseret, président du BBC Trois Torrents.
Dans chaque journée, on a essayé de mettre en place des animations pour les enfants. Donc chaque rencontre sera précédée soit d'un match U14 à Trois Torrents, soit d'animations pour les jeunes d'Aigle et B avant les rencontres. Donc on a vraiment misé sur le côté populaire. Aussi, les rencontres, l'accès sera libre, pas d'entrée payante. La seule chose qu'on demande, c'est bien entendu le certificat Covid. Mais vraiment, voilà, le but, c'est vraiment de faire venir le maximum de personnes pour découvrir le basket. Et on espère susciter des vocations.
Si ce partenariat a pour objectif de rassembler pour plus de visibilité, les 5 clubs fondateurs garderont en revanche toute leur indépendance. Comment cette collaboration va-t-elle fonctionner? La réponse de Fabrice Miseret.
On est parti sur une base vraiment de signer un contrat de principe, vraiment collaborer le mieux possible. Et c'est vrai que on a prévu dans un premier temps, jusqu'en 2023, une séance par année fixe pour mettre au point des choses. Après avoir maintenant avec le tournoi, je pense que le but c'est aussi de pérenniser ce tournoi à l'avenir. Puis vraiment après qu'il y ait une collaboration entre les clubs, c'est vrai que parfois il peut arriver que dans un club il y ait trop de, par exemple, trop de joueuses U14 et le club voisin pas assez. Vraiment que les deux clubs concernés échangent et trouvent un point de collaboration, ce qui parfois n'était pas fait dans le passé. Ça, c'est vraiment une chose qu'on souhaite éviter maintenant, puis vraiment qu'on puisse travailler dans le bon sens. Plus il y aura de jeunes qui jouent au basket dans la région, plus chaque club y trouvera son compte.
Pour rappel, 3 rencontres amicales sont prévues ce week-end. Helios Genève vendredi à B. Trois Torrents retrouvera sa salle polyvalente samedi face à Genève. Enfin, la formation Chorgues retrouvera Helios dimanche à Aigle pour un derby avant l'heure. Un sujet signé Ludovic Turin.
Retrouvez toute l'actualité en podcast et en vidéo sur radiochablais.ch. La météo avec François Nicollier, agencement de cuisine, dressing et menuiserie sur mesure depuis plus de 40 ans à Aigle et au Diableret. fnicollier.ch.
Le temps sera bien ensoleillé cet après-midi avec des températures douces en montagne, 20 degrés au maximum en plaine, 19 à 1000 mètres, 14 à 2000 mètres pour demain. Toujours un temps bien ensoleillé annoncé par Météo Suisse après la dissipation de quelques bancs de stratus matinaux en plaine. Il va faire de 9 à 21 degrés en plaine, justement de 8 à 20 à 1000 mètres et de 8 à 15 à 2000 mètres. La météo à 6 jours, radiochablais.ch.